confie maintenant la parole à Mme Véronique Bédague, présidente et directrice générale. C'est à vous, Madame.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce webcast sur nos résultats semestriels. Je suis accompagnée ce soir, comme d'habitude, par Jean-Claude Bastien, Pierre-Henri Pouchelon et l'équipe de relations investisseurs. Je vais partager avec vous les grands messages de cette publication semestrielle et Jean-Claude et Pierre-Henri reviendront ensuite dans le détail sur l'activité commerciale et sur les résultats financiers. Et vous aurez évidemment, comme à chaque fois, la possibilité de nous poser des questions à l'issue de notre présentation. Peut-être d'abord quelques messages clés de cette communication du S1. Un mot d'abord sur le marché. Vous le savez, le secteur évolue dans un marché du logement et du bureau qui est toujours en recul très marqué. Sur le logement, on a une baisse globale du marché du neuf de moins 15% selon la FPI après le T1. On n'a pas encore les chiffres de la FPI sur le T2 et même moins 27% sur le détail. Adéquation donne moins 21% sur les détails sur les 6 premiers mois de l'année, donc un marché toujours en recul. Sur le tertiaire, une baisse. Le marché est en baisse de 39% en investissement en immobilier de bureau, ce qui fait suite à une baisse de 56% en 2023. Nous avions évoqué lors de la publication du T1 des signes encourageants, il se confirme sur le T2, je vais y revenir. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister ce soir, la période a été pour nous opérationnellement très active. Nous déroulons sans faiblir notre feuille de route, pas à pas, vous la connaissez, et je peux affirmer ce soir que le plan de transformation est très bien engagé autour de nos 4 R, recentrage et désendettement, redimensionnement, recalibrage et redéploiement, j'y reviendrai. Un message sur nos chiffres du S1, je pense que de ce point de vue, il y a deux points à souligner. Un désendettement significatif de 264 millions, c'est une diminution de 31%. Un résultat opérationnel positif et qui intègre nos coûts de transformation à hauteur de 128 millions d'euros. Ces coûts sont totalement compensés par la plus-value générée par la cession de l'ADB qui s'élève à 183 millions d'euros. Les performances commerciales et financières sont parfaitement conformes à nos attentes et nous maintenons les perspectives pour l'exercice en cours inchangées. Enfin, il m'a semblé important dans la séquence de marché actuelle de revenir dans cette présentation sur les fondamentaux du groupe. Notre place de leader est confirmée cette année encore et pour la 5e année consécutive par le classement du Moniteur. Et les fondamentaux du groupe confirment notre capacité à conforter cette place. Si on revient sur les 4 éléments en détail, je viens d'évoquer le marché. Nous avons eu des signaux encourageants sur la période d'un point de vue macro et réglementaire. D'abord, nous observons depuis le 1er janvier 2024 une baisse ininterrompue des taux de crédit immobilier. Cette baisse s'élève sur 6 mois à 54 points de base et maintenant que vous êtes habitués, ça représente une amélioration du pouvoir d'achat de nos clients de près de 5%. Couplé à la hausse des revenus nominaux, à peu près 12-13% sur 3 ans et aux efforts pris que nous avons consentis, la baisse de pouvoir d'achat subie par nos clients de façon macroéconomique de moins 25% est compensée. Grâce à cela, nos réservations au détail se maintiennent au niveau de l'année dernière, ce qui est mieux que le marché. Seconde bonne nouvelle, et malgré l'absence de majorité de gouvernement, le décret sur la seconde extension du zonage, dont je vous avais parlé et que nous attendions depuis quelques mois, a pu être publié début juillet. Ces 700 communes supplémentaires qui sont désormais éligibles au LLI ou au PTZ, c'est vraiment important pour les investisseurs et pour nos primo-accédants. C'est pour nous désormais, c'est que pour nous désormais, 87% de notre offre est rendue éligible versus 81% après la première extension et 70% avant. Donc ça redonne de la valeur à notre stock. Deuxième élément, un semestre très actif. Deuxièmement, et indépendamment du contexte extérieur, vous allez voir la période a été opérationnellement très active en ligne avec notre feuille de route dont l'exécution ne dépend d'aucune extérieure et c'est important de le rappeler. Les quatre R sont en train de se déployer. D'abord, le volet désendettement via le recentrage de nos activités. Vous l'avez vu, on a initié ce recentrage en 2023. Nous avons cédé les activités d'ADB au T2 et nous avons publié ce soir, juste avant la publication des résultats semestriels, un communiqué sur l'entrée en négociation exclusive de Nexity avec le Crédit Agricole Immobilier en vue de la cession de notre activité de property management. Cette nouvelle cession vient clore notre recherche de partenaires stratégiques et financiers sur nos métiers de gestion. Tous les leviers de désendettement sont activés. La trajectoire de désendettement est bien engagée, vous le voyez dans nos chiffres, avec une diminution sur le semestre de plus de 30% de l'endettement, grâce évidemment aux produits de cession de l'ADB, mais aussi à une très bonne maîtrise du BFR, en particulier du BFR résidentiel. Nous mettons également en œuvre notre feuille de route volontariste en matière de redimensionnement de la base de coûts. Le plan de départ qui vous avait été présenté lors de la publication du T1 a été lancé en avril et l'avancement du PSE se fait au rythme prévu. Avec les effets de la réduction des effectifs sur la masse salariale combinés aux mesures sur les frais généraux de l'entreprise, nous visons un plan d'économie en année pleine en 2026 de près de 100 millions d'euros, soit une réduction de 16% de la base de coûts à fin 22 et également ce plan est très bien engagé. Puis recalibrage de notre offre, nous adoptons évidemment l'offre ancienne et travaillons à son recalibrage aux nouvelles donnes de marché au cas par cas. Ce sont évidemment des campagnes nationales, des temps forts sur certains programmes, des baisses de prix ciblées en fonction du stade d'avancement et puis la prise en compte quand c'est nécessaire de l'impact des hausses de coûts de construction. Pierre-Henri y reviendra en détail car évidemment cela a des conséquences sur nos comptes mais ces mesures d'adaptation nous permettent d'écouler notre offre ancienne et de ne pas avoir de logements achevés invendus conformément à nos priorités. Enfin, le redéploiement d'une nouvelle offre, nouvelle donne de marché, concrètement, le plan de transformation du groupe vers un modèle agile d'opérateur urbain qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année avance bien. Le développement a d'ailleurs été soutenu sur la période. On a fait nos comptes pour se rendre compte tout de même. Plus de 130 comités d'engagement se sont tenus au premier semestre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est près de 9300 lots dont un tiers sont liés à la régénération urbaine. Nos partenariats, dont ceux avec Carrefour ou Mirabeau, nous permettent également d'accélérer sur la régénération urbaine sans impacter. Vous savez qu'on se fait fixer comme obligation les bilans du groupe dans la phase de portage. Sur les indicateurs financiers, ce slide reprend les principaux indicateurs commerciaux et financiers qui seront détaillés dans cette présentation par Jean-Claude et Pierre-Henri. L'activité commerciale et les performances financières sont parfaitement conformes à nos attentes et nous maintenons les perspectives pour l'exercice en cours inchangé. Pour l'activité commerciale, à noter la stabilisation des ventes au détail, ce qui conforte notre hypothèse que le point bas commercial est derrière nous. Sur la partie financière, un résultat opérationnel positif à 55 millions d'euros et un désendettement très significatif qui reflète la transformation puissante qui est à l'œuvre. Enfin, en conclusion, je voudrais rappeler nos fondamentaux qui sont solides et que ce S1 confirme un leadership pérenne. On a été de nouveau classé comme premier promoteur par le moniteur. On a un bilan robuste, d'autant plus robuste que le désendettement est en très bonne voie, comme vous le voyez, et que notre liquidité demeure solide puisque nous avons une ligne de crédit de 800 millions d'euros qui n'a été consommée fin de S5 à hauteur de 50 millions d'euros. Des partenariats de long terme qui nous accompagnent, évidemment actionnariat stratégique, vous vous en souvenez, Crédit Agricole, AG2R La Mondiale, Arkea et Crédit Mutuel de l'Est, dont trois sont présents au Conseil et soutiennent évidemment ce que l'on fait. Et le quatrième avec qui on est en échange très rapproché, merci. Donc ça, c'est important. Des partenaires bancaires et obligataires qui nous ont permis la renégociation de nos covenants, et puis des partenaires opérationnels dont vous savez qu'ils sont importants pour nous, Carrefour évidemment, la Caisse des dépôts très présente et Mirabeau sur les activités de régénération urbaine. Et enfin, quatrième point, nous sommes en train de réduire, vous l'avez compris, la base de coûts et ajuster notre offre sur 2024 pour proposer à nos clients une offre abordable. Et donc, nous sommes en position de conforter notre position leader dans le nouveau cycle immobilier. Vous en verrez d'autres effets au S2. Jean-Claude.
Merci Véronique. Concernant l'activité commerciale, le premier semestre du marché est dans le même rythme que le premier trimestre. Donc, nous sommes dans le dur de la crise. Pour ce qui concerne Nexity, nous avons signé sur le semestre plus de 5000 réservations. C'est une baisse de 17% par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, il faut noter que sur le détail, nous faisons mieux que le marché, puisque nous sommes stables sur le détail, alors que Adéquation annonce pour le marché de moins 21% sur le semestre. Ceci confirme le diagnostic que nous avions posé à la fin de l'année 2023, comme quoi 2023 a été sans doute pour Nexity un point bas commercial. Le mix client que vous voyez, que vous observez n'est pas significatif au titre de ce S1 pour une raison très simple, puisque l'activité de vente en bloc qui est le driver principal du marché en ce moment n'est pas linéaire sur l'année et que donc nous maintenons notre objectif d'avoir un mix client avec une vente en bloc représentant 65% à la fin de l'année. Et nous pensons que ce camembert va converger progressivement. Au passage, un commentaire sur le LLI avec une très forte progression. C'est 2,5 fois plus que l'année précédente, donc c'est une progression significative. Dans un environnement de marché sous contrainte, évidemment, notre discipline maximale, c'est la maîtrise de l'offre commerciale. Le recalibrage de nos opérations porte ses fruits. Vous le voyez à l'écran avec une baisse de l'offre commerciale de 16%. Donc l'offre s'écoule et baisse. Il baisse parce que nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions. Une très forte sélectivité de notre offre. Il faut avoir en tête que vente en bloc inclus, le taux de précommercialisation est de 85%. Deuxième effort que nous faisons, c'est les efforts consentis sur les prix pour pouvoir s'adapter au pouvoir d'achat du moment de nos clients. Donc cela se reflète évidemment dans les coûts de transformation dont Pierre-Henri parlera tout à l'heure. Au final, notre offre s'avère toujours peu risquée avec l'indicateur du nombre de logements achevés invendus qui reste non significatif autour de 100 lots. Et nous sommes attentifs, évidemment, à l'offre à livrer sur le S2, mais qui, là aussi, est relativement peu significatif, car qui représente moins de 8% de l'offre en cours de travaux. Enfin, à noter sur ce sujet, l'impact de la nouvelle extension du zonage que Véronique a mentionné à l'instant, qui fait passer 87% de notre offre commerciale en zone tendue. Un focus sur la régénération urbaine avec Nexity Héritage, parce que c'est un élément important de notre pivot. Nous avons signé près de 1000 lots S1 au titre de cette activité. C'est une très forte progression par rapport à 2023. Donc le fait d'avoir regroupé nos expertises opérées précédemment à travers plusieurs entreprises sous la marque Héritage porte ses fruits. Vous voyez à l'écran deux exemples d'opérations que nous avons menées ou que nous menons. Une opération en région parisienne de réhabilitation d'un immeuble de bureaux en espace de mixte bureau éco-living et un immeuble de vocation commerciale sur le centre historique de Cherbourg transformé en objet mixte avec commerce et logement. Concernant le marché tertiaire, là aussi, une évidence de le dire, mais nous sommes dans un bas de cycle très fort. Après un recul de 55% au T1, nous sommes sur le semestre à moins 39%. Le niveau de prise de commande s'en ressent évidemment. Il est faible, à 46 millions d'euros. Toutefois, au S1 de l'année, il est supérieur à ce qu'il fut sur toute l'année 2023. C'est un timide signe et on s'accroche sur ce segment-là à tous les signes favorables. Nous avons deux VFA signés sur la période pour 10 000 m2, quelques opérations significatives à souligner sur le S1, le village des athlètes, bien sûr, 60 000 m2, donc 15 000 m2 de tertiaire, Réoua, notre futur siège, 25 000 m2, ou encore le projet portant sur 21 000 m2 de co-living à Puteau. Le backlog est de 208 millions d'euros. Enfin, nous avons 14 opérations en cours à fin juin qui représentent un backlog de 208 millions d'euros. Sur les services, la traction est sur les activités d'exploitation, plus 4%, résidence étudiante et coworking cumulés, avec l'extension du parc et les taux d'occupation supérieurs à 90%. L'activité de distribution, évidemment, est fortement impactée par l'affaissement du marché de l'investisseur particulier. Nous sommes en recul de moins 52% sur un marché en effondrement, mais nous faisons mieux que notre environnement concurrentiel sur ce sujet. Et sur les activités de gestion, nous sommes stables. C'est une activité qui s'éteint progressivement, puisque nous avons cédé l'administration de biens à Bridgepoint, comme vous vous en souvenez, récemment, et nous sommes entrés en négociation, comme nous venons de l'annoncer, avec le Crédit Agricole Immobilier pour la cession du Property Management NPM. Je passe la parole à Pierre-Henri pour la partie financière de notre présentation.
Merci Jean-Claude. Bonjour à tous. Passons maintenant à nos performances financières et extra-financières qui, comme vous le voyez sur cette slide, la slide 18, traduit notre plan de transformation qui est à l'œuvre avec des impacts pleinement assumés sur ce premier semestre de l'année 2024. Cette slide reprend tous nos principaux indicateurs que je vais vous détailler un à un juste après. Alors en premier, voyons le chiffre d'affaires. Au global, il s'élève à fin juin à 1,7 milliard, en baisse de 14% hors activité cédée, soit une baisse de 267 millions d'euros. Cette baisse provient évidemment des activités de promotion, que ce soit en résidentiel ou en immobilier d'entreprise. C'est le reflet de l'avancement des opérations embarquées, mais aussi de la baisse de nos réservations. Sur les services, l'exploitation est en croissance de plus 4%, une croissance contrebalancée par le repli de la distribution en lien avec les difficultés sur le marché du neuf à l'attention des clients particuliers et la baisse des réservations que nous avons enregistrées en 2023 sur ce métier. Nous l'avons mentionné en introduction, la transformation du groupe passe par un redimensionnement avec des annonces structurantes faites déjà à l'occasion de la publication du premier trimestre. Les économies attendues à horizon 2026 s'élèvent à 95 millions d'euros, une baisse attendue sur la base de coûts d'au moins 16% en année pleine 2026. 75 millions de ce plan seront réalisés en baissant la masse salariale et la mise en œuvre du PSE, qui se déroule conformément au calendrier prévu. 20 millions seront réalisés sur les frais généraux et l'immobilier, où les plans d'action opérationnels sont en place pour les atteindre. Le résultat opérationnel, il ressort donc à 55 millions d'euros. Il est positif, conformément à notre guidance annuelle. Il est impacté par nos coûts de transformation pour 128 millions d'euros, coût totalement compensé par la plus-value réalisée sur la cession des activités d'administration de biens pour 183 millions d'euros. En résultat courant, on retrouve donc nos coûts d'adaptation et de recalibrage de l'offre conçue dans le cycle précédent pour 57 millions d'euros, liés essentiellement aux baisses de prix et aux hausses de coûts travaux, principalement liés à des défaillances d'entreprises. En résultat non courant, nous retrouvons 30 millions d'euros de coûts d'abandon et de dépréciation de terrain mis en vente. Ce sont tous les projets sur lesquels, avec nos opérationnels, nous avons tranché de ne pas les développer. 41 millions de coûts de réorganisation qui sont provisionnés sur ce premier semestre, dont les coûts du PSE. Et enfin, 183 millions d'euros de plus-value sur la cession de l'administration de biens. En slide 22, nous avons affiché le détail du résultat opérationnel courant par activité. Il est bien sûr fortement impacté pour la promotion résidentielle par les coûts d'adaptation décrits précédemment. Sur les services, il est impacté par les activités de distribution, pénalisé par la baisse des réservations en 2023. Le BFR, hors impôts, il est en baisse de 23 millions d'euros à 1,3 milliard, avec une baisse sur l'activité de promotion résidentielle de 102 millions d'euros. Nous l'avons dit depuis le départ, et Véronique l'a rappelé, le désendettement repose sur deux jambes. Le recentrage avec les cessions, mais aussi la tenue et la baisse du BFR sur le résidentiel. À noter les actions entreprises depuis 2023 qui portent leurs fruits sur ce premier semestre et permettent donc cette baisse significative. La poursuite de la sélectivité accrue dans nos opérations. Les achats terrains sont en baisse de 60 millions d'euros par rapport au premier semestre 2023. La Land Bank est en baisse de 14% à 148 millions d'euros au 30 juin 2024. Je précise que plus aucune acquisition sur la Land Bank n'est autorisée depuis le début de l'année 2023. Une optimisation de la durée entre l'acquisition des terrains et les appels de fonds. Cela passe par un travail sur la concomitance entre les achats terrains, la signature des actes et le démarrage des travaux. Cela pèse moins sur notre BFR. L'accélération du recouvrement client par la mise en place depuis le début de l'année d'une cellule centralisée qui fait ses preuves. Et enfin, l'effet favorable sur le BFR des coûts d'abandon pour 30 millions d'euros. Le BFR est pénalisé par un décalage de 85 millions d'euros relatif à notre projet significatif de la Garenne-Colombes. Retraité de cet impact, le BFR au total serait en baisse de 108 millions d'euros. J'ajoute que cette baisse intervient sur le premier semestre, sur le résidentiel qui représente structurellement un pic chez les promoteurs. L'endettement net, il est en diminution de 264 millions d'euros, soit moins 31%, une variation essentiellement due à la cession de l'administration de biens pour 400 millions d'euros. L'impact négatif du cash flow libre d'exploitation pour 95 millions d'euros, qui pour rappel est impacté par le décalage d'encaissement sur la Garenne-Colombes pour 85 millions d'euros, et des charges financières pour 47 millions d'euros. Retraité du décalage d'encaissement, la baisse de l'endettement aurait été de près de 350 millions d'euros, soit plus de 40% de baisse. Je rappelle un peu l'historique de l'endettement net. Du 30 juin 2023, nous étions à plus d'un milliard de dettes nettes. Nous étions à 843 millions d'euros à fin 2023. Nous sommes à un peu moins de 500 millions d'euros à la fin de ce premier semestre. On peut affirmer que le profil de dette de Nexity a significativement évolué à la baisse. La structure financière, elle reste bien sûr équilibrée à fin juin. 60% de la dette brute est à taux fixe. Avec nos instruments de couverture, notre dette brute est même couverte à hauteur de 96%. Le groupe bénéficie d'une liquidité solide, 1 milliard d'euros, qui intègre 750 millions d'euros de lignes de crédit non tirées et confirmées. Le montant total de la ligne de crédit, je le rappelle, à échéance 2028 est de 800 millions d'euros et il n'y a pas de limitation sur son utilisation. Il n'y a pas d'évolution sur ce premier semestre concernant l'échéancier de nos dettes à long terme. Pour rappel, nos partenaires bancaires et obligataires EuroPP sont en soutien unanime de la transformation et nous ont exonérés à ce titre de nos ratios financiers pour le 30 juin et pour l'exercice 2024. La prochaine date de test pour les ratios financiers est donc le 30 juin 2025. Une slide sur la performance extra-financière qui, vous le savez, est au cœur de nos enjeux business. La trajectoire bas carbone du groupe est ambitieuse. Pour rappel, nous visons une diminution de 42% du poids carbone d'ici 2030, un niveau 10% meilleur que la réglementation en vigueur RE2020, ce qui revient concrètement à avoir 2 ans d'avance sur les seuils réglementaires. Sur le premier semestre, on fait mieux et on atteint pour les opérations au stade de permis de construire un niveau 30% en moyenne plus performant que la RE2020. Cela est rendu possible grâce à la poursuite du déploiement de pompes à chaleur et de modes constructifs bas carbone, mais aussi grâce à la forte croissance de la réhabilitation dans notre production nouvelle, tout cela évidemment en maîtrisant nos prix de revient. Cette avance de Nexity dans le bas carbone s'illustre et c'est d'actualité par le village des athlètes. Nous parlons d'un projet, je le rappelle, d'environ 60 000 m2, c'est presque 40 000 m2 de résidentiel, développé en à peine 5 ans et conçu pour émettre le minimum de CO2 avec moins de 700 kg de carbone par mètre carré. Cela a été rendu possible grâce à de nombreuses innovations techniques et servicielles sur lesquelles Nexity désormais capitalise et s'appuie dans ses projets à venir. Pour conclure, un mot sur nos perspectives. Sur la base de la bonne exécution de notre feuille de route, notamment la mise en œuvre des mesures d'ajustement et de transformation de l'organisation, sous réserve bien sûr de la non-dégradation de l'environnement macroéconomique, nous maintenons nos perspectives inchangées. Je vous les rappelle, un résultat opérationnel positif en 2024 qui marquera un point bas financier. Ce niveau de résultat tiendra compte des plus-values de cession, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation du groupe. Une dette financière nette à fin 2024 qui doit être sensiblement inférieure à celle de fin 2023. Une amélioration de la profitabilité visée dès 2025 et par voie de conséquence la poursuite du désendettement avec un endettement net maximum de 500 millions d'euros à fin 2025. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes bien évidemment tous les trois à votre disposition pour vos questions.
Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, encore une fois, si vous voulez poser des questions, veuillez appuyer sur la touche étoile, c'est le chiffre 1. Donc, étoile 1 pour poser des questions. Nous allons commencer aujourd'hui avec Christophe Chaput qui nous appelle Dodo. C'est à vous, monsieur.
Oui, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de prendre mes questions. J'en ai 4, si vous me le permettez. La première, c'est en slide 21, donc vous indiquez les coûts de transformation au total, qui sont de 128 millions d'euros sur le semestre. Est-ce que vous pourriez nous aider en fait sur les coûts que vous aurez à comptabiliser sur l'ensemble de l'année et si vous pouviez décomposer ce qui est courant et non courant, ça nous aiderait beaucoup. La deuxième question, c'est qu'en fait sur les réservations, donc les ventes en bloc, vous avez dit que c'était pas linéaire en fait sur l'année S1 S2, donc vous avez un S1 à moins 31%, si j'ai bien noté. Au final, sur l'ensemble de l'année, est-ce que vous pensez que vous pourriez être stable sur les réservations vente en bloc? La troisième question, c'est sur le property management. Donc, vous êtes effectivement en négociation pour une cession. Juste le périmètre, en fait, en 2023, c'est bien 80 millions de chiffre d'affaires et environ 3 millions de résultats opérationnels. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous aider en fait, à avoir une idée du prix de cession? Si on table sur une fourchette assez large entre 50 et 100 millions, ça vous paraît cohérent? Et la dernière question, c'est j'ai bien noté que la dette fin 2025 serait inférieure à 500 millions. Est-ce que vous pourriez nous aider sur un atterrissage fin 2024? Merci beaucoup.
Je vais répondre sur la 1, la 2 et la 4, et puis je laisserai Jean-Côte sur la partie NPM, sur les coûts d'adaptation de l'offre. Donc là, en non courant, on a provisionné nos coûts de réorganisation, donc 41 millions d'euros, dont la provision du PSE. Ça, c'est chose faite sur ce premier semestre. On a également comptabilisé des coûts d'abandon et de cession de terrain sur lesquels on ne développera pas d'opération. Donc ça, c'est issu de notre revue ligne à ligne d'opération avec nos opérationnels sur lesquels nous nous sommes entendus pour ne pas développer ces opérations parce que nous n'étions pas capables de les développer à un niveau de marge satisfaisant. Sur les coûts d'adaptation de l'offre, comme je le dis depuis le début, on affine ça programme par programme, appartement par appartement, date de livraison par date de livraison. C'est du yield management quotidien. Ça, c'est la transcription du premier semestre pour faire en sorte que nos priorités soient toujours respectées, c'est-à-dire l'écoulement de l'offre et l'absence de logements achevés invendus à l'arrêté des comptes. C'est le cas sur ces deux points. Comme l'a dit Jean-Claude, nous avons peu de logements à livrer en date de livraison non commercialisée sur le S2, mais évidemment, nous sommes vigilants sur la suite et donc nous adapterons cela avec toujours la priorité mise sur le désendettement et le BFR et évidemment la guidance d'un résultat opérationnel positif. Sur la dette financière nette, là aussi, la guidance reste inchangée, c'est-à-dire une trajectoire de dette significativement plus basse que celle de 2023. Vous voyez qu'au premier semestre, je pense qu'on peut dire qu'on est, significativement plus bas que ce qu'on était fin 23. Vous connaissez la saisonnalité du S2 dans nos métiers. Ça vous laisse raisonnablement penser à combien nous pouvons être sur la dette fin d'année.
Concernant le property management, l'annonce que nous avons faite concerne notre filiale NPM. Je rappelle que sur l'activité property management, nous avons deux filiales, NPM sur les activités tertiaires et Accessite sur l'activité commerciale. Accessite n'est pas concerné par l'opération dont nous parlons. Et concernant NPM, nous sommes sur un chiffre d'affaires qui est inférieur au montant que tu indiques, Christophe. Nous sommes sur un chiffre d'affaires autour de 55 millions d'euros maximum.
Et la question des ventes en bloc, donc en effet, c'est non linéaire sur l'année, c'est le cas tous les ans, ça dépend essentiellement aussi des signatures des paniers, hein, qui jouent beaucoup dans la saisonnalité des blocs. Nous avons signé un panier avec la Caisse des dépôts dans la fin du mois de juin pour un peu plus de 1000 lots, dont la moitié en LLI. Tous les blocs sont confirmés par nos opérationnels et comme on l'a dit, on est toujours sur notre objectif d'un montant équivalent de ventes en bloc à celui de l'année dernière.
D'accord. Un grand merci. Juste en fait pour revenir sur les coûts de transformation et la plus-value en fait, au final sur l'ensemble de l'année, le solde plus-value coût de transformation sera positif en fait, c'est ça? Même si je comprends bien qu'il y a encore des incertitudes sur le coût d'adaptation de l'offre en fait.
Bah c'est ce que j'ai dit, fonction de notre travail ligne à ligne et des priorités toujours qu'on s'est données en termes d'écoulement. Et de logements achevés invendus et évidemment tout ça va être calibré en fonction des besoins d'écoulement et d'absence de logements achevés invendus d'ici la fin de l'année.
C'est parfaitement conforme à notre guidance.
Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Chaput. La prochaine question viendra de Marie Faure qui nous appelle de Bernstein. C'est à vous, madame.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez correctement?
Très bien.
Vous m'entendez?
Bon. Très bien. Très
bien. J'ai deux, trois questions. La première, c'est sur les efforts commerciaux qui étaient estimés dans une fourchette de -6%, -10% en début d'exercice. Je voulais savoir comment vous vous situiez. À la fin du premier trimestre, vous indiquez que vous étiez plutôt en bas de fourchette. Voilà, je voulais savoir si c'était toujours le cas. La deuxième question, c'est tout, je reviens et j'en suis désolée sur les coûts d'adaptation de l'offre sur le premier semestre, est-ce qu'on peut attendre sur le deuxième semestre? Est-ce qu'il est faux de dire que puisque vous avez une baisse de l'offre commerciale sur le deuxième semestre des anciens programmes, normalement, proportionnellement, ces coûts devraient diminuer? Troisième question, c'est sur Morning Coworking. Je voulais savoir où est-ce que vous en étiez de vos réflexions stratégiques, puisque vous avancez sur NPM, est-ce qu'également vous avancez sur ce sujet-là? Et enfin, sur la photo de dette nette, donc en slide 25, donc vous avez une trésorerie de 730 millions d'euros. Je voulais savoir quelle était la part de cette trésorerie qui était mobilisable éventuellement pour rembourser votre échéance à horizon 2025. Merci beaucoup.
Alors, je vais commencer par bonsoir Marilyn, je vais commencer par la dernière question sur la liquidité. Dans la liquidité disponible, évidemment, on retient la liquidité qui est immédiatement disponible pour Nexity. Vous savez qu'il y en a deux tiers à peu près, qui est une liquidité trappée dans les copromotions, donc qui sera disponible, mais selon un échéancier qui dépend du véhicule monté avec le copromoteur de remontée de marge et de fonds propres. Et donc, sur les 732 millions, il y a 250 millions immédiatement disponibles, qui s'ajoutent évidemment aux 750 millions de la ligne de crédit non tirée, d'où les 1 milliard de liquidités disponibles pour Nexity à date. Et dont je rappelle que la ligne de crédit non tirée n'a aucune limite dans son utilisation. Sur les coûts d'adaptation de l'offre, peut-être un mot quand même pour redonner le contexte de ces coûts d'adaptation. Je rappelle que tout ça se fait au regard d'un triptyque. Hein. Nos clients ont perdu 25% de pouvoir d'achat. Ils en ont quand même regagné 5% par la baisse des taux de crédit immobilier, 54 points de base depuis le début de l'année. Évidemment, on va suivre de très près comment se poursuit ou pas cette baisse de taux des crédits immobiliers. Ils ont regagné 12-13% de pouvoir d'achat par la hausse des salaires depuis 3 ans à peu près en termes de hausse de salaire. Et donc, bah, on navigue toujours dans des baisses de prix qui peuvent aller de moins 4, moins 6 à moins 10%. Et évidemment, c'est fonction du stade d'avancement du logement en fonction de la date de livraison. Donc, c'est vraiment du yield management ligne à ligne. Et donc, tous ces paramètres-là, on les regarde tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a une guidance qu'on garde sans montant fixe, hein, vous le savez, qui est un résultat opérationnel positif parce qu'évidemment, ces coûts d'ajustement sont dimensionnés au mieux jour après jour avec toujours la priorité écoulement et pas de logement acheté invendu sur l'offre commerciale en cours.
Concernant Morning, je vous rappelle que c'est une activité de croissance qui, avec du prix à bail et donc d'alimentation de la dette IFRS 16, pour pouvoir soutenir cette croissance, nous avons annoncé au marché que nous regardions l'hypothèse de déconsolidation de Morning. Et donc, pour ce faire, nous recherchons là aussi un partenaire stratégique ou financier sur le dossier. Et cette recherche est en cours.
Merci. Et sur la proportion des...
Désolé, continuez, s'il vous plaît.
Et sur la proportion, sur le calcul, enfin sur le fait de se dire que vous avez moins d'offres en cours de commercialisation sur le deuxième semestre, on pourrait avoir un poids des coûts d'abandon de projet moins fort sur le deuxième semestre, c'est erroné comme jugement, donc ?
C'est pas erroné, c'est juste que je le redis, on va dimensionner ça en fonction des trois paramètres dont je viens de parler, qui bougent quand même, vous le voyez, tous les mois, voire tous les jours, et sur lesquels aussi nos clients se positionnent en fonction de ces paramètres. Donc évidemment, pareil, on va dimensionner ça au S2, mais on a en effet des moyens de faire encore devant nous qui sont en ligne avec notre guidance pour s'assurer cet écoulement de l'offre et le fait de toujours terminer l'année avec absence de logement achevé invendu, ce qui est la priorité des priorités.
Ce sont vraiment des décisions prises projet par projet, hein, donc il n'y a pas de règle générale. On prend les décisions qu'on doit prendre pour écouler des logements, hein, donc il n'y a pas...
Et à cela s'ajoute en plus des dizaines de marchés de l'immobilier en plus en fonction de la localisation de l'offre. C'est encore peut-être un quatrième paramètre qui rentre en ligne de compte.
On est extrêmement pragmatique là-dessus.
Merci bien.
Merci beaucoup, Madame Faure. Mesdames, Messieurs, un autre appel. Si vous voulez poser des questions, appuyez sur la touche étoile, sur le chiffre 1. La prochaine question viendra de Mikhail Nidzielinski, qui appelle de Ross Capital, R-O-C-E Capital. C'est à vous, monsieur.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bonjour. Moi, quelques questions sur la dette et la trajectoire de désendettement. Tout d'abord, sur la cession donc, que vous avez lancée aujourd'hui, donc, j'ai compris que le périmètre était aux alentours de 55 millions d'euros. Est-ce que... un multiple d'environ une fois le chiffre d'affaires vous paraît être plus ou moins en ligne avec ce qui est discuté en ce moment, sachant que je pense que c'est un peu ce genre de multiple normalement dans le secteur. La deuxième question, c'est sur le point d'atterrissage. Fin 2025, vous avez maintenu moins de 500. C'est vrai que vous êtes déjà à moins de 500 si on prend le décalage du BFR à la fin du H1. on peut quand même, j'espère, s'attendre à une année 2025, si on a touché le point bas en 2024, avec un free cash positif, en excluant tous les one-off. Il y a la session que vous avez annoncée aujourd'hui, il y aura peut-être d'autres sessions. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le 500 pourrait être très conservateur. Et la dernière question, c'est une suggestion. C'est que vous avez beaucoup de liquidités, on en a parlé. Vous avez cette convertible qui trade à 50% de décote par rapport à son prix d'émission 2028. Est-ce qu'un moyen facile pour accélérer le désendettement ne serait pas d'utiliser ces liquidités pour racheter le plus possible de ces convertibles 2028 qui sont actuellement à 33 par rapport à leur prix d'émission à 60. Quelque part, chaque million d'euros dépensé vous permet de désendetter deux fois plus vite. Voilà.
Alors, je vais vous répondre sur toutes les dernières questions et Jean-Claude va vous répondre sur NPM. D'abord, notre guidance à fin 25, il ne vous a pas échappé qu'il y a un mot qui s'appelle maximum. Donc, c'est un maximum de 500 millions d'euros. Et on reste excessivement concentré et prudent à ce stade, même si tout ce que vous avez dit est très vrai et qu'on reviendra le moment venu. Mais à ce stade, on reste concentré et prudent sur notre trajectoire qui se déroule comme prévu. Sur l'obligation convertible 2028, là aussi, on est dans un moment où on a partagé l'effort entre nos actionnaires, nos salariés, on fait un PSE, on n'a pas versé de dividendes, on protège notre cash. Donc, aller racheter des souches d'une obligation 2028 alors qu'on a des échéances à plus court terme et qu'en plus, cette obligation-là ne coûte pas grand-chose puisqu'elle est négociée à des taux de l'ancien monde, je pense, ne serait pas une décision de gestion très positive dans le moment. Donc, vous l'avez compris, la priorité, c'est notre transformation, nos coûts d'adaptation et sortir fin 2024 en situation de rebond très fort. Et pour ça, on protège notre liquidité immédiate et par-dessus tout.
Concernant NPM, nous avons annoncé que nous rentrions en négociation exclusive. Donc, par définition, on ne va pas discuter de l'élément du prix parce que ça va faire l'objet de notre accord avec celui avec qui nous discutons. C'est un sujet qui sera disclosé au moment du signing. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur les multiples, je vous laisse vous référer aux éléments de marché. Concernant les activités de cette nature, évidemment, le chiffre d'affaires est un élément qu'il faut prendre en compte, ainsi que la maturité du portefeuille de clients.
D'accord, merci.
Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, encore une fois, si vous avez des questions, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Étoile 1 pour poser des questions. Merci. Et il semble que nous n'avons plus de questions, Madame Bédag. Je vous redonne la parole pour toute remarque complémentaire ou pour la conclusion. Merci.
Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et forcément à très bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Passez bonne journée et au revoir.